Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet! Tony! Trezeguet! Pirlo, ancora Pirlo, di tacco! Tiro! Gol! Gol! Grosso! Grosso! Gol! Gol di Grosso! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 15 du podcast 100% football italien Calcio et Pépé. Avec moi comme chaque semaine Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors Guillaume, encore un programme chargé aujourd'hui puisqu'on va revenir évidemment, c'est notre premier sujet, sur le gros choc entre le Milan et la Juve. Et on fera un focus particulier, évidemment on peut pas y couper. Sur Gonzalo Higuain et son match vraiment très très décevant et particulier à la fois qu'il a vécu contre son ancien club. En deuxième sujet, on parlera de Justin Kluivert qui remonte un peu la pente petit à petit à la Roma. On parlera évidemment du Napoli aussi et de Fabian Ruiz qui a réalisé une très bonne performance au week-end. On parlera une nouvelle fois de Samir Handanovic qui a livré un match tout à fait exceptionnel avec l'Inter malgré les 4 buts encaissés sur la pelouse de Bergame, c'est dire. On fera ensuite un point national et puisqu'on est en semaine internationale, on parlera juste aujourd'hui des convoqués pour ces matchs Italie-Portugal et Italie-États-Unis. Et puis on reviendra la semaine prochaine plus en détail sur ces matchs et sur les enseignements à tirer de ces deux rencontres. Et puis enfin, on vous en avait l'habitude, on a commencé la semaine dernière le dolce à la fin, le pêle-mêle footballistique, où on évoquera plusieurs sujets sans forcément y prêter de très très longues minutes. Alors Guillaume, on commence par ce Milan-Juve. Où tu étais? Tu as assisté à ce match à San Siro.
En effet, ouais.
Et alors, on aurait pu choisir quand même pas mal d'angles sur ce match. On a choisi évidemment d'évoquer Gonzalo Higuain puisque ça nous paraissait impossible de ne pas le traiter. On commence par quoi? On va dire par son match et puis après on évoquera l'expulsion et les conséquences.
Bah, oui, on peut commencer. Évidemment que on peut pas y couper parce que c'est sûr, c'est, on peut dire que c'était le joueur le plus attendu, ouais, forcément du match, parce qu'avec ce qui s'est passé l'été dernier. On rappelle le fait que voilà, la Juve lui a demandé gentiment de partir après l'arrivée de Ronaldo, ça c'est un fait. Lui, il voulait pas partir, il a été prié de s'en aller, donc forcément, il était attendu dimanche soir. Bon, bah, on peut dire que les retrouvailles ne sont pas très bien passées. Le pénalty raté, forcément, les tournants du match. Moi, j'étais au stade, du coup. Alors, je sais pas si ça s'est vu à la télé, mais alors, du moment de la, voilà, au moment de la VAR, le temps que l'arbitre Mazzolène aille revoir la VAR, Kessi a tout de suite pris le ballon. Il a tout de suite pris le ballon, et si tu veux, il était prêt à frapper. Au moment où l'arbitre, voilà, fait le signe de la vidéo et siffle le pénalty, il était prêt à frapper. Et c'est là que Higuain, bon, bah, moi, je pense que c'est par un sentiment de, voilà, il a voulu le frapper, il s'est dit que, voilà, c'était l'occasion aussi de se venger un peu. Alors,
voilà, c'était la vengeance et montrer aux dirigeants qu'ils se sont éventuellement trompés.
Exactement. Ou... Alors, je dis pas qu'il s'est fait un film dans sa tête, mais inconsciemment et évidemment que c'était un match tellement attendu pour lui, qu'il a pris très à cœur, et on l'a vu au moment de son carton rouge à la fin, que voilà, quand il y a eu le pénalty, c'est lui qui l'obtient sur la main de Benassia, et il s'est dit, voilà, je vais me faire justice moi-même, je vais leur montrer qu'ils ont mal fait de faire partir. C'est un sentiment humain, là, je peux comprendre. Il fait passer quand même sa personne avant le club, donc ça, c'est forcément un problème, avant son équipe. Parce que Kessi, bon, l'année dernière, a frappé beaucoup de pénalties. Il avait arrêté le dernier parce que Milan n'a pas eu de pénalty cette année, donc en fait, si tu veux, il n'y avait pas de tireur... pas de tireur titré, mais on savait très bien que Kessié, voilà, était normalement le numéro 1.
Aussi parce qu'Higuain en a beaucoup raté depuis qu'il est en Serie A, et le match contre la Juve, et celui qu'il a raté ce week-end, c'est quand même son sixième penalty raté sur 18 tentatives. Ouais. Ça veut dire qu'il en rate quand même un tiers, ce qui est
énorme.
Et
tu te souviens qu'il rate celui que, face à Lazio, à Napoli, décisif pour, oui, la qualification avec des champions, qui rate. Et du coup, le Napoli ne se qualifie pas. Donc, c'était aussi un penalty décisif. Forcément, dimanche, ça l'était moins, parce que voilà, ça reste une journée de Serie A. On est au mois de novembre, donc voilà, c'était pas décisif en soi, mais dans le film du match, évidemment que ça l'est. Et c'est au nom du match. Et voilà, il a pris le ballon. Il pour moi, en l'ayant revu plusieurs fois, même aujourd'hui à la télé. Alors, je suis pas joueur de foot, donc je peux pas apprendre à Higuain à frapper les pénalties, c'est pas la question, mais comme tu dis, on a raté beaucoup. Et c'est vrai qu'en regardant plusieurs fois, tu peux même voir que Chesney part légèrement avant.
Oui.
Et tu sais bien qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs, dont Icardi, tu vois, Icardi a beaucoup progressé sur les pénalties. Icardi a toujours la tête levée quand il le frappe. Et Higuain, je pense que tu l'as vu, il avait la tête baissée, il a frappé en force. Et forcément, Chesney, qui le connaît un peu, parce que bon, il a quand même fréquenté la Juve, et parti de son côté, fait un bel arrêt quand même, Chesney, on peut le dire.
Alors, je sais pas si t'as vu l'image depuis à la télé, ou si tu l'as vu au stade, mais Cristiano Ronaldo est venu voir Chesney aussi. Qu'Higuain tire, et comme Ronaldo et Higuain se connaissent du temps du Real Madrid, visiblement, Ronaldo a aussi indiqué à son gardien où Higuain avait l'habitude de les tirer.
Ah, tu vois, du stage, j'ai pas vu. Moi, j'étais vraiment concentré sur Kessi, tu vois. Et il a vraiment, pour dire, parce que je sais que j'ai parlé avec beaucoup d'amis qui m'ont dit que, bah, ils avaient pas vu de la télé et Kessi avait déjà pris ses courses d'élan. Donc, il avait dans sa tête, il avait déjà choisi son côté, il savait où il allait frapper. Ouais. Et là, Higuain, une fois que le pénalty est sifflé, il va prendre le ballon des mains de Kessi, qui résiste pas, si tu veux. Il n'y a pas une polémique, comme on a pu le voir entre Cavani et Neymar, par exemple. Et du coup, Higuain a voulu le frapper et malheureusement, bon, pour Milan et pour lui, il l'a raté. C'est à partir de là que découle le reste, parce que bon, sa réaction à la fin découle aussi de ça. Il l'a avoué à l'après-match, après ses excuses. Il dit oui, j'avais aussi le penalty dans ma tête que j'avais raté avant la mi-temps. Et puis on peut dire aussi, je sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est vrai qu'il a été diminué. Mais on peut dire aussi qu'il a pas fait un très bon match.
Mais il a été surtout nerveux du début à la fin. Oui. Alors évidemment, il y a cette question de la pression inhérente à ce match-là, et lui, ça, son espèce de vengeance personnelle qui l'avait en tête. Et c'est vrai que sur des mauvaises transitions de ses partenaires ou sur des ballons qui ne lui arrivaient pas. Alors certes, un attaquant, ça veut toujours avoir des ballons et ça râle assez souvent, quel que soit l'attaquant. Mais là, c'est vrai que c'était un peu exagéré de sa part, c'est-à-dire que tout ballon qui ne lui arrivait pas ou qui ne lui arrivait pas dans de bonnes conditions, était un vecteur de crispation, de frustration, de d'agacement, et du coup c'était très négatif aussi pour ses partenaires. Donc c'est vrai qu'il a non seulement il a pas existé dans le jeu, après de manière générale Milan n'a pas beaucoup existé non plus dans le jeu, donc c'est pas lui qui allait transformer non plus le jeu de l'équipe vu qu'il est au bout de la chaîne. Mais c'est vrai qu'il a rien fait non plus pour aider son équipe. Alors il y a évidemment le penalty, mais dans son attitude générale ou dans le match complet qu'il a pu faire, qu'il n'a pas fait en l'occurrence. C'est vrai qu'il n'a pas, il n'a pas été le leader que Milan est en droit d'attendre sur ce genre de rencontre.
Est-ce que vu de la télé, vu du stade, j'ai trouvé ça encore plus flagrant et je le dénonce beaucoup depuis le début de saison, malgré ses 5 ou 6 buts. J'ai quand même l'impression que il est au centre du projet du Milan, c'est un fait. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il est toujours pas au centre du jeu.
Mais là, c'est un peu difficile parce que Cassiero savait pas trop comment se positionner. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, alors, on le répète, hein, c'était aligné en 4-4, le Milan était aligné en 4-4-2.
Ouais.
Avec Cassiero qui prenait la place de Cutrone devant, puisque Cutrone n'était pas à 100%. D'ailleurs, Higuain ne l'était pas non plus, donc c'était quand même difficile. Voilà. De commencer un match avec tes deux attaquants qui ne sont pas à 100% dans ce type de choc où l'intensité est vraiment importante. Et en fait, Cassiero, voilà, est passé vraiment, je trouve, hein, au travers de son match parce qu'il savait pas où aller, il savait pas comment se comporter, il connaissait pas les circuits, du Milan à ce poste-là. On sait que c'est un ailier. À chaque fois qu'il a joué cette saison, c'est en ailier, c'est pas en attaquant autour d'Higuain ou aux côtés d'Higuain. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué aussi pour lui de savoir se situer, d'être entre les lignes, il avait tendance à plutôt aller sur un côté, de se marcher sur les pieds avec Suso quand il allait à droite. Donc voilà, il a pas fait un bon match, ça c'est évident, Cassiero, et ça a pas aidé du coup à trouver évidemment Higuain, qui n'est pas recherché par les milieux axiaux parce que Kessié et Bakayoko ont d'autres qualités que celles de jouer vers l'avant, on va dire ça comme ça, ou même de se projeter sans ballon, tout simplement. Et c'est vrai que on revient aussi à Çalhanoğlu sur le milieu côté gauche.
Et Çalhanoğlu était blessé aussi, hein, il était pas en grande forme. Hein.
Pas en grande forme, mais quoi qu'il arrive, je persiste à dire que c'est pas son poste et que vraiment son influence est vraiment trop limitée à ce poste-là. Et comme tu le dis, Higuain était évidemment. Alors, on le voit sur certaines rencontres face à des petits, c'est déjà inquiétant, des petits clubs. Mais là, face à la Juve, c'est d'autant plus marquant quand tu vois la densité au milieu de terrain de la Juve, l'impact qu'ils mettent dans les duels, l'anticipation de Chiellini ou de Benatia, parce que ça, c'est deux défenseurs qui anticipent beaucoup les trajectoires. Donc, avant que ça touche Higuain, ils arrivent à anticiper les trajectoires de passe. Donc voilà, effectivement, Higuain n'est pas à côté, mais aussi comme le reste de l'équipe.
Et d'ailleurs, on peut aussi souligner, parce que c'est vrai que moi en l'occurrence, je n'avais pas à le parler, c'est aussi les progrès de Bakayoko.
Ouais.
Très rapidement, on va pas s'épancher sur Bakayoko, on en parlera peut-être plus tard pendant la trêve, on aura plus le temps. Mais c'est vrai que il est vraiment vraiment en progrès depuis 3-4 matchs. Il est vraiment mieux. Le 4-4-2 visiblement l'a aidé, hein, parce qu'on rappelle que c'était le schéma qu'il a connu à Monaco oui. Champion de France. Et c'est vrai que voilà, même dans l'attitude, la façon de se positionner, je me rappelle qu'on avait parlé, c'est vrai que maintenant il se positionne mieux, même dans sa gestuelle, dans la position de son corps, et même dans il sait très bien que son gros atout c'est le physique. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi je le trouve de mieux en mieux, il est en progrès, tout le monde en parle, même au stade, tu vois, là je me rappelle que j'avais été voir Inter Milan, Bakayoko, c'était pas, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Tu sais, tu entends autour du stade les gens qui se demandent. Alors qu'à l'époque, il avait pas fait beaucoup de matchs, c'est vrai que le peu qu'on l'avait vu, c'était compliqué. Alors que là, tu vois, un mois plus tard, comme quoi dans le football, ça va vite. Les gens se disent c'est vrai que Bakayoko est pas si mal que ça. On comprend mieux pourquoi il est là. J'ai même entendu s'il repart à la fin de la saison, ça serait compliqué. Après, on rappelle que l'option d'achat, c'est 35 millions, donc c'est un peu beaucoup.
Oui.
Mais au-delà de ça, on peut quand même dire qu'il est en progrès et c'est une bonne nouvelle pour Milan.
Alors, tu fais bien d'en parler puisqu'on avait oublié de l'évoquer la dernière fois et puisqu'on avait Sébastien Fimognari sur Twitter, je vais y arriver, qui nous avait demandé un petit mot sur Bakayoko qui fait enfin un match de qualité après le dernier match de Milan. Donc là, il a aussi fait un match, on va dire, encourageant. Voilà.
L'un des meilleurs de l'équipe.
Hein. Ou l'un des moins mauvais, c'est au choix. ça dépend où on place le curseur, mais voilà. Alors les conséquences de l'expulsion de D-Wayne, on passe rapidement sur l'expulsion.
Ouais.
Carton jaune pour contestation, carton rouge ensuite direct et non pas un deuxième carton jaune pour. Pour contestation, on va dire aggravée, on va appeler ça comme ça. Non, c'est vrai qu'il a eu une attitude très agressive, un comportement très agressif envers Mazzolini, l'arbitre. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut pas se comporter comme ça. Moi, ça m'a fait penser à Philippe Mexès qui avait pris un rouge en pétant les plombs aussi d'une manière similaire lors d'un match, je crois, à Brescia, il y a fort longtemps. Alors qu'il était avec le maillot de la Roma, voilà, on peut pas se comporter comme ça avec les arbitres, et donc du coup, conséquence, 2 matchs de suspension.
Ouais, oui, évidemment, je partage tes propos, évidemment qu'on peut pas se comporter comme ça. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réaction découle forcément de ce qui s'est passé avant le match, le penalty raté, le fait que dans le jeu il n'y arrivait pas, il était pas bien de sa forme. C'est face à la Juve, les supporters de la Juve, ils n'étaient pas nombreux. On va dire qu'ils étaient éparpillés parce que les ultras faisaient grève, donc voilà, mais ils l'ont aussi chambré. Donc voilà, c'était une somme de choses qui a fait qu'il a littéralement pété les plombs, ça c'est sûr. Du stade, je peux vous assurer que c'était impressionnant. Revue de la télé, bon, moi je m'attendais un peu à pire parce que vu du sel, comme je te l'avais dit en off, je pensais vraiment qu'il l'avait poussé ou qu'il y avait eu des insultes, bon, de ce qui s'est passé les deux matchs. D'ailleurs, on peut aussi présumer qu'il n'y a pas eu d'insulte, parce que sinon, je pense qu'il aurait pris beaucoup plus. Donc voilà, il s'est excusé. Mais évidemment, c'est un comportement qu'il ne pouvait pas avoir. Surtout qu'il y a Lazio Milan en 2 semaines, que Milan est déjà décimé.
Oui, très affaibli.
Voilà, et que s'il y a un match à ne pas perdre, c'est celui dans 2 semaines. À la limite, celui-là, j'ai envie de te dire, bon, c'est dommage au vu de la finale du mini-match, parce que voilà, tu as ce pénalty qui crie vengeance, comme on dit en Italie, mais. Là, dans 2 semaines, tu vas avec Coutronné, s'il est remis sur les, voilà.
Ça devrait aller normalement pour
lui. Oui, ça devrait aller, mais c'est pas Higuain.
Non. Donc,
si tu joues avec Higuain à Rome, c'est quand même autre chose que Coutronné, qui est encore très jeune, quand même. Donc, c'est vrai que voilà, cette réaction, c'est dommageable pour Milan, c'est dommageable pour l'équipe. Il s'est excusé, il s'en veut. Moi, j'ai envie de croire, alors, bon. Maintenant, il a 30 ou 31 ans, Higuain, donc, j'ai envie de croire que ça sera la dernière fois. Parce que c'est pas la première fois qu'il conteste les arbitres. On sait que voilà, il s'énerve souvent. Et ça fait quand même 2-3 matchs, hein. Oui. Qu'il était pas.
Qu'on avait noté sa nervosité.
Exactement. Et j'ai revu tout à l'heure des images de Milan à Atalanta où tu le voyais tout sourire, c'est heureux, épanoui. Et c'est vrai que depuis 2-3 matchs, on le sentait un peu plus sur les nerfs. Il était pas très bien, il était énervé. Et là, bon, malheureusement, c'était contre la Juve. Mais forcément, il a pris ce match à cœur. Pour moi, j'ai mis sur Twitter, il s'est trompé de match. C'était pas Higuain contre la Juve, c'était Milan Juve. C'était pas lui contre ses anciens coéquipiers. Malheureusement, voilà, il est passé à côté. Il a fait une erreur. Il en a même fait deux entre le pénalty et le rouge.
C'est ça.
C'est une réaction qu'il aurait pas dû avoir. Voilà, il prend 2 matchs.
Ça le paraît deuxième, justifié. C'est Milan-Parme, c'est ça?
C'est Milan-Parme. Lazio Milan et Milan-Parme. Donc, moi, c'est 2 matchs qui me paraissent justifiés. Milan va pas faire appel d'ailleurs parce qu'il considère que voilà la sanction est proportionnelle à la réaction. Voilà, c'est dommageable, mais j'ai envie de croire que voilà. Maintenant il a un âge où ça peut plus arriver et ça a pris tellement tu vois une ampleur voilà, et tout le monde l'a vu, enfin c'était quelque chose quand même d'assez médiatique, c'était assez impressionnant quand même à voir la réaction. Ouais. Et je pense honnêtement que j'espère pour lui que ça n'arrivera plus parce que maintenant il est en âge de plus faire ce genre de bêtises et il reste humain, ça peut arriver, mais j'espère vraiment que ce sera la dernière fois qu'on le verra aussi énervé face à un arbitre.
Alors, on va passer à notre deuxième sujet, d'un vieux de la vieille, comme Higuain, on va dire ça comme ça, à un tout jeune qui débute dans les grands championnats européens. C'est Justin Kluivert, on en avait parlé en tout début de saison. On se demandait un peu pourquoi Di Francesco ne le faisait pas jouer.
Alors, il est en tribune à un moment.
Voilà, voire en tribune. Alors on avait vu et lu des choses sur son comportement, sur son attitude générale, sur le fait qu'il donnait parfois le sentiment d'être, de se sentir arrivé, déjà arrivé, etc. Là, il vient d'enchaîner deux matchs titulaires contre le CSKA Moscou en Russie et aussi contre la Sampdoria, c'était ce dimanche. Alors, s'il n'a pas été décisif, dans le sens son nom n'apparaît pas sur la feuille de match en passe décisive ou en but, il a fait quand même deux prestations très encourageantes, très intéressantes même, où on a revu ses qualités de sa période à l'Ajax, c'est-à-dire quelqu'un qui percute beaucoup, beaucoup d'agilité dans les 1 contre 1, une vitesse d'exécution assez importante et de dribble, sa pointe de vitesse tout simplement aussi. Il y a une action en première mi-temps contre la Sampdoria où il dribble sur le côté droit, il passe son défenseur sur la vitesse pure et puis il revient dans l'axe et il frappe sur le poteau dans un angle très fermé. Voilà, c'est le Justin Kluivert dont la Roma aura besoin, parce que en 1 contre 1 comme ça, c'est pas vraiment le profil de d'El Shaarawy ni celui de Perotti. Il y a que Cengiz Under qui est un peu dans le même type de joueur, encore que Cengiz Under a le défaut souvent de trop revenir sur son pied gauche et se réaxer, alors que Kluivert est capable de faire les deux, de partir en débordement ou de se réaxer aussi parce qu'il a un peu les deux pieds. Donc ça c'est intéressant. Ce qui a été noté aussi beaucoup par Di Francesco, c'est son travail défensif. Voilà, il a beaucoup beaucoup travaillé sur le repli. C'est un des axes de travail qu'avait fixé Di Francesco dès son arrivée, parce qu'on sait que dans le championnat des Pays-Bas, même si tu joues à l'Ajax, et justement parce que tu joues à l'Ajax où t'as une domination assez importante sur 90% du championnat, voire 95% selon les années, les ailiers n'ont pas un énorme travail défensif à fournir. Ils sont surtout gardés pour les transitions rapides vers l'avant, et c'est vrai qu'il n'avait pas cette habitude là et c'est vrai qu'aussi que quand on arrive en Serie A, on insiste beaucoup sur la tactique, on insiste beaucoup sur le repli défensif, sur le travail sans ballon, et ça c'est vrai que ça peut être aussi perturbant pour un joueur qui a été formé à l'Ajax et qui n'avait pas ces habitudes là
mais du coup je te coupe, tu penses que alors le temps que Di Francesco l'a écarté entre guillemets du terrain, c'était une question d'adaptation, une question de temps, une question de... Enfin, comment ça se fait qu'on l'a vu, enfin, on l'a vu si peu.
On
était même en tribune, donc passer du tribune, de la tribune au terrain, est-ce qu'il y avait un problème de comportement ou si la Roma a quand même connu une période assez compliquée, donc qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors sur ça, j'ai pas d'infos particulières. Le problème de comportement, on l'a lu rapidement dans la presse romaine, mais au final, ça s'est calmé très vite.
Ouais.
Donc j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça. Après on sait aussi que Di Francesco sait travailler avec les jeunes. Il sait comment les utiliser sur le terrain, il sait comment les utiliser de manière à ce qu'ils rendent la meilleure copie possible sur le terrain, et il hésite pas parfois à prendre du temps avec certains pour leur faire comprendre les choses, et je pense que le gap était vraiment important. Ouais. Pour Justin Kluivert à son arrivée, la question n'était pas de savoir si il pouvait faire la différence offensivement, parce que ça oui, il l'a toujours eu et ça il l'aura toujours, mais par contre dans le travail collectif, dans l'expression collective de son jeu, il y avait beaucoup de choses à revoir, et je pense que c'est ce qui a nécessité le plus long travail pour Di Francesco. C'est loin d'être fini d'ailleurs, hein, parce qu'on peut pas dire que tout soit parfait encore pour Justin Kluivert, mais disons que c'est encourageant, et après à voir où Di Francesco voudra mettre le curseur entre le fait qu'il apporte beaucoup offensivement, ça c'est indéniable, Justin Kluivert, et le fait de vouloir le faire progresser défensivement. On sait que la Roma est en manque un peu de fantaisie depuis le début de la saison. J'ai le sentiment que c'est un des deux ou trois joueurs seulement qui est capable de l'apporter dans cet effectif-là à l'heure actuelle, et que il s'en est peut-être privé un peu trop longtemps au vu des résultats.
Ouais.
Et c'est pareil, il l'a fait jouer une fois, après il l'enlevait, il l'a refait jouer une fois, il l'enlevait. Bon, c'est un joueur qui marche aussi beaucoup à la confiance et qui n'a connu que l'Ajax, qui n'a connu qu'un style de jeu, qu'une école. Donc forcément, ça fait
encore jeune.
Voilà, ça fait encore beaucoup de changements en un seul été. Donc voilà, la question se posera aussi de son positionnement, puisque là, il a joué à droite, ce qui pour moi est son meilleur poste. Sauf que Di Francesco l'avait aligné aussi à gauche cette saison. Où là, je trouve qu'il est moins intéressant parce qu'il a tendance à aller tout de suite dans l'axe et donc à répéter les mêmes schémas.
Et El Shaarawy est pas trop mal à gauche en plus.
Et El Shaarawy est sans conteste l'ailier le plus performant depuis le début de la saison.
Je me souviens qu'on en avait parlé, hein. Il y a quand même quelques podcasts.
Notamment lors d'un match à Milan, on l'avait dit. Rentré à la mi-temps et c'était le seul qui avait un peu secoué le cocotier du côté de la Roma.
C'est l'un des plus réguliers. Ouais.
Exactement. Et c'est aussi le plus décisif, hein, parce qu'il en est à 5 buts, si je dis pas de bêtises.
Il a encore mis un beau but, c'est un super but en plus. Hein.
Donc voilà, donc il va se poser la question de où le mettre, puisqu'en concurrent direct, il a Cengiz Under sur le côté droit. Donc voilà, à l'heure actuelle, il tâtonne encore sur ce poste-là. J'ai l'impression que Cengiz peut faire 3 matchs. Après, ce sera Justin Kluivert qui fera 3 matchs.
Il a pas un titulaire.
Qui se détache pour l'instant vraiment. Donc.
Et Patrick Schick, du coup, tu le mets où? Parce que. Alors. Bon, moi, j'étais en Italie et du coup, quand j'ai pas pu voir tout le match, mais quand j'ai vu que Patrick Schick était marqué, du coup, je me dis, est-ce qu'il y avait un bug ou est-ce que Patrick Schick a vraiment marqué?
Alors, pour moi, ce match-là est la simple confirmation d'une chose dont je suis persuadé. Alors, pour le moment, je dis pas que dans le futur, c'est pas possible. Mais c'est que Dzeko et Schick ensemble, ce n'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est tout simplement pas possible parce que tu perds trop sur le plan offensif avec un joueur, Schick en l'occurrence, qui n'est pas habitué à jouer sur un côté et qui n'arrive pas à s'y adapter. Et là, il était aligné en pointe et Dzeko était sur le banc pour le faire souffler un petit peu. Et il a été meilleur, il a même marqué, donc c'est déjà pas mal pour lui et pour sa confiance, et surtout pour calmer un peu les critiques des tifosi,
il avait acheté cher en plus. Hein.
Alors il y a le prix évidemment, tu sais comment ça se passe en Italie, dès que t'as acheté cher, c'est très compliqué. Mais il y a surtout ce que n'avait pas Kluivert, enfin en tout cas ce que ne montrait pas Kluivert quand il entrait, même si on savait que Kluivert était frustré quand il entrait, il donnait tout, il essayait de se montrer. Alors que Schick, à l'inverse, rentrait de façon très détachée, on va dire ça comme ça, un peu en dilettante, et ça plaisait très très peu aux supporters de la Roma.
Est-ce que c'est pas dans sa gestuelle, soit dans l'allure, est-ce qu'il rentrait vraiment avec la mauvaise mentalité, on dirait, ou est-ce que c'est pas ça qu'il avait quand même une gestuelle assez particulière, toi, un peu détaché, un peu laxiste.
Très honnêtement, dans ce qu'on voyait, il y avait quand même très peu de courses, très peu de mouvements. Ouais. À la perte de balle, il faisait aucun effort pour le récupérer. Et ça, c'est pas vraiment son jeu. Je suis d'accord avec toi sur l'impression qu'il peut donner. Disons qu'il est très facile avec le ballon, donc il peut avoir donné cette impression-là. Mais là, c'était vraiment sur le volume d'engagement où il était vraiment trop limite par rapport aux exigences d'un club comme la Roma sur une saison entière. Donc on verra ce que ça donnera. Moi, ça m'a conforté dans l'idée qu'il faut absolument éviter d'aligner Dzeko et Schick ensemble, parce que c'est une catastrophe à chaque fois que ça a été essayé. Et surtout, aujourd'hui, les alternatives existent avec Kluivert, avec Cengiz, avec El Shaarawy.
Sur les côtés, ouais.
Et il y aura peut-être enfin le retour de blessure de Diego Perotti, qui manque quand même aussi pas mal, parce que c'est un profil très particulier. Est totalement différent des autres, donc voilà. Schick, malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la meilleure place possible pour lui dans cet effectif, c'est en doublure de Dzeko, et certainement pas aux côtés de Dzeko, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Justin Kluivert. On regardera ses prochaines performances et on verra si il a réussi à franchir un cap de façon plus régulière, on va dire ça comme ça, sur la saison. Là, il est avec les espoirs néerlandais pendant la trêve, et il reviendra donc après les matchs des U21 néerlandais. Autre joueur arrivé cet été, Guillaume, Fabián Ruiz.
Oui.
Alors qui a eu un peu le même parcours entre guillemets que Kluivert. Parce que lui, pour recontextualiser un peu tout ça, donc il arrive au Napoli cet été, montant du transfert 30 millions d'euros, c'était sa clause avec le Betis, et dans l'imaginaire collectif, à la fois supporter, journaliste, il arrive pour remplacer Jorginho, en position de numéro 6. Puisque Jorginho a quitté le Napoli pour aller à Chelsea, il fallait un remplaçant. On imagine tous que Ancelotti va garder un milieu à 3 qu'il a beaucoup pratiqué au PSG, à Milan. Voilà. Donc on imaginait tous un peu le schéma suivant. Fabien Ruiz en 6 devant la défense, Alan à la droite de Ruiz et Hamzik à sa gauche. Sauf que Ancelotti décide, un peu à la surprise générale, de reculer Hamzik, d'abord dans un milieu à 3, donc ça c'était un peu la surprise, et désormais le Napoli joue à 2, et c'est la paire Hamzik-Alan qui est titulaire dans l'entrejeu du milieu. Donc se poser la question de que faire de Fabien Ruiz. Exactement. Et Ancelotti a réussi à trouver une formule un peu différente pour le mettre au milieu gauche, un peu comme Zielinski d'ailleurs, qui lui aussi est du coup un peu désaxé sur le côté gauche. Et ça donne satisfaction pour le moment, Guillaume, puisqu'il a réalisé deux bonnes performances. Alors il n'était pas titulaire ce week-end, mais il était contre le PSG, je l'avais trouvé très intéressant. Et là, il est rentré en cours de match, il était sur la pelouse de Gênes, une pelouse catastrophique avec les inondations comme d'hab.
Mais c'est, ouais.
C'est la pelouse, ouais, du Marassi, c'est une blague, voilà. Non, mais c'est tous les ans comme ça. Mais il a fait une bonne performance.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on dit souvent que le terrain pluvieux, forcément et évidemment, gêne la technicité de certains joueurs. Mais pour le coup, on peut dire que toi, pour rester dans le contexte, qu'il a surnagé. Dans ce match le plus vieux,
ouais, parce exactement.
Qu'honnêtement, moi je l'ai trouvé vraiment bon, si ce n'a été le meilleur du Napoli. Il a été hargneux, il a été technique, il a été bon dans sa transmission, dans ses prises de balles, il crée le décalage, il a été vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que voilà, comme tu as dit, la pluie de Gênes était comme d'habitude. Bon, certes il y avait un gros orage, alors on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'était catastrophique. Et dans un match quand même qui était particulier, parce qu'on rappelle qu'il a été interrompu sur le 1-0 pour la Samp, voilà, en deuxième mi-temps. Le Napoli était pas bien, parce que quand tu perds 1-0 et qu'il manque une demi-heure de jeu, forcément, tu as peut-être quoi t'inquiéter sur une pelouse aussi compliquée que celle de Gênes. Et voilà, ensuite Fabien Ruiz est arrivé, il a complètement changé le match. Parce que sur le 1-0, honnêtement, ça avait mal parti. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant. Et d'ailleurs, qui est arrivé à Naples, de ce qu'on a entendu en Italie, qui est arrivé à Naples parce que c'était un coup de cœur de Davide Ancelotti, donc oui. Le fils de Carlo, qui est son adjoint maintenant. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que son adjoint, et c'est lui qui a vraiment été, qui a eu un coup de cœur pour Fabien Ruiz, qui était alors en Liga. Et voilà, il l'a fait venir à Naples. Et c'est vrai qu'au début, ça a été le temps de s'adapter, le temps de lui trouver une place, comme tu as dit. Ancelotti a cherché la bonne formule, et c'est vrai que, bah écoute, pour le moment, en ce moment, c'est vrai que c'est une belle révélation. Il prend place, il gagne sa place titulaire petit à petit. Donc, ce sera à suivre la suite de la saison, mais c'est vrai que sa technique, s'adapte parfaitement au jeu du Napoli. Et, sans lui samedi, face au Genoa, je pense que ça aurait été très 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 compliqué pour le Napoli.
Alors c'est pas un milieu de côté comme on l'entend, c'est-à-dire qui va manger la ligne, qui va déborder parfois pour centrer ensuite. C'est vraiment, je le vois vraiment comme un milieu axial qui est décalé sur le côté,
décalé à gauche,
mais qui se comporte vraiment comme un milieu axial. Alors c'est ce qui est à noter du côté du Napoli, c'est que à droite on a Calderón qui lui pourtant a une vraie habitude de joueur de côté, puisqu'il a été ailier longtemps dans le 4-3-3 de Sarri. Donc lui c'est vraiment la vitesse, le débordement, l'activité permanente, multiplier les appels, etc., les dédoublements. Alors que Fabien Ruiz se comporte pas du tout comme ça, et Fabien Ruiz je le vois un peu comme le point d'équilibre du Napoli. Alors ce que peut être aussi Zielinski, hein, parce que au final il n'a participé qu'à 6 matchs de Serie A cette saison, le Fabien Ruiz, 3 titularisations et 3 fois entré en cours de jeu, donc c'est assez faible, on va dire ça comme ça pour l'instant. Mais je le vois comme un point d'équilibre, c'est-à-dire que là où Hamzik, moi je trouve, hein, a vraiment du mal, même s'il y a un peu de mieux, aller physiquement à tenir sur la durée, à colmater les brèches, Fabien Ruiz l'aide dans ce rôle-là. Il a une il a un état d'esprit de combattant que j'ai beaucoup aimé.
Oui, exactement.
Il est très dur dans les duels, toujours debout, mais des appuis solides, très dur dans les duels. Sa qualité technique est évidemment très intéressante dans les phases d'attaque où le Napoli a le ballon. Mais voilà, pour moi, c'est le point d'équilibre de cette équipe. Et c'est vraiment pas le joueur qu'on peut ressortir comme ça. Voilà, on a vu combien de matchs du Napoli cette saison. On n'a jamais ressorti Fabian Ruiz. Hormis là, ce week-end où il est rentré pour 30 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises. Où là, vraiment, il a changé le match. Mais c'est pas le joueur qu'on va ressortir en premier parce qu'il y a plus fantasque, il y a plus beau à voir jouer, il y a plus technique que lui, il y a plus hargneux que lui encore, comme Alan. Mais c'est un joueur de l'ombre qui est très intéressant.
Et dans sa capacité aussi à éliminer, je ne sais pas si tu es d'accord, mais tu te rappelles le slalom qu'il avait fait il y a quelques matchs, alors j'ai plus souvenir contre qui c'était, il avait fait un slalom, il avait dribblé 3, 4, 5 joueurs. Et c'est vrai que, comme tu disais, il a un mélange de technique et de hargne. Et c'est vrai que il est pas uniquement technique. Moi j'ai deux trois souvenirs du match face à Gênes samedi où il a littéralement poussé ses adversaires, il les a fait tomber. Donc au-delà de sa technique, c'est vrai qu'il est quelqu'un qui est puissant, qui a une belle capacité à aimer ses défenseurs. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est pas le joueur comme Insigne ou Mertens qui va ressortir du lot à la fin d'un match, mais c'est vrai que il est très intéressant et il devient vraiment important pour le Napoli. Et quand il est rentré samedi, il a vraiment changé le match. Donc, ce serait pas étonnant qu'on le voit de plus en plus quand même dans le 11 d'Ancelotti, qui petit à petit a pris forme. Il a fallu du temps. Et c'est vrai que Fabian Ruiz aussi, il est arrivé cet été. Donc, on sait qu'il faut aussi du temps pour s'acclimater à Naples, pour trouver sa place dans l'effectif d'Ancelotti, dans le jeu. Parce que c'est vrai qu'il y avait un jeu quand même qui venait de plusieurs années de Sarri. Donc, il fallait s'y intégrer aussi. Mais c'est vrai que petit à petit, le Napoli a pris forme. Et c'est vrai que Fabian Ruiz commence à trouver sa place. Et ce sera un élément important pour la suite de la saison.
Ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est s'il décide de l'aligner un peu plus aussi. C'est difficile de mettre Ramsic sur le banc. Hein, on sait ce qu'il représente à Naples.
À Naples, ouais.
Mais c'est vrai que moi, son début de saison, je le trouve particulièrement quelconque. Donc à voir aussi si il décide de l'aligner lui ou peut-être Zielinski aussi, un des deux peut-être un peu plus dans un rôle de milieu axial dans la construction que en gros dans le garant du bon équilibre tactique de l'équipe. Ça sera évidemment à voir dans les prochaines semaines. Alors un joueur, maintenant on va passer à notre quatrième sujet, un joueur qui est lui là depuis bien longtemps. Depuis fort longtemps en Serie A, c'est Samir Handanovic. 34 ans.
On en a reparlé, hein. On en a parlé plusieurs fois.
On en a parlé plusieurs fois, mais alors, déjà, il faut préciser que c'est vraiment le seul Interiste qu'on peut ressortir de ce match-là. Où c'était quand même très compliqué. L'Inter restait sur 7 victoires consécutives en Serie A, je crois.
7 ou 8, ouais, peut-être plus. C'est vrai que même en Champions League, ils avaient quasiment tout gagné avant le Barça.
Ouais. C'est vrai que c'est le premier match depuis longtemps où l'équipe passe totalement au travers.
Ah ouais, c'était surréaliste. Hein.
C'était vraiment surréaliste. Notamment la première mi-temps, comme tu le dis, où il y a, on va dire 5 et 7 très grosses occasions de but pour la Talenta et où Handanovic a fait des miracles pour éviter à l'Inter de prendre l'eau trop rapidement. Finalement, ils ont quand même pris l'eau malgré les très nombreux arrêts.
C'est pas des
petits arrêts, hein. C'est des face à face, c'est des arrêts réflexes, c'est à 5 mètres du but, à 6 mètres du but. Non, c'est vraiment très impressionnant. Ce que je voulais dire sur Handanovic quand même, c'est que on parle, même de manière générale, hein, et même en Italie, où le poste de gardien est quand même un poste très important. Mais je trouve que à l'Inter, de manière juste, hein, on parle beaucoup d'Icardi. Et des buts d'Icardi, et ça c'est juste d'en parler puisque effectivement c'est très important et Icardi est un super joueur, mais je trouve que c'est injuste de parler aussi peu du facteur décisif et des arrêts d'Handanovic de manière générale. Alors même si déjà en Italie, alors encore plus au niveau européen, puisque si on arrête 10 personnes dans la rue qui s'y connaissent en foot, si on leur dit de dresser les 10 gardiens européens du moment, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui nous propose Handanovic.
Non, il y sera pas.
Il y sera pas. Donc, alors il y a plusieurs facteurs. Évidemment, tu en avais parlé une fois, c'est le fait que l'Inter n'a pas fait la Ligue des Champions depuis très longtemps. Donc ça, évidemment, quand les gens qui ne regardent pas forcément la Serie A tous les week-ends se posent devant un match, un choc de Ligue des Champions, ils ont pas pu voir l'Inter ces dernières années. Donc évidemment que la question médiatique se pose à ce niveau-là. C'est aussi, Guillaume, un joueur très calme, très tranquille, assez lisse, peu expressif. Donc ça participe au fait que il est jamais cité, et pour autant c'est un gardien top niveau pour moi. Ce que j'ai mis sur Twitter après le match, c'est que on enlève Buffon qui est l'extraterrestre de la Serie A sur les dernières années, hormis l'épiphénomène Alisson un an la saison dernière, l'épiphénomène Donnarumma un an, c'était il y a deux saisons maintenant, je crois.
La première.
C'est le meilleur gardien de Serie A.
Évidemment, c'est comme tu dis, il est constant. Alors forcément, sur Twitter, j'ai vu certaines personnes qui disaient qu'il avait fait 2-3 erreurs. Oui, il en a fait, mais il a tellement fait de miracles. Ça fait des. L'Inter va mieux, mais pendant que l'Inter n'est pas bien, c'est quand même lui aussi qui a tenu la barque. Parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait dans les périodes assez sombres de l'Inter ces dernières années, c'était quand même miraculeux. Comme tu dis, pour moi, il est tout aussi important qu'Icardi. Il te sort des miracles. Parce que ce n'est pas des petits arrêts, comme tu dis, à Bergame dimanche. C'était des gros arrêts, c'était des miracles. Il était monstrueux. Et c'est vrai que. Je sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, mais c'est vrai que, comme tu dis, moi je suis sûr que si tu arrêtes plusieurs personnes dans la rue, tu ne citeras pas Handanovic parmi les 10 meilleurs. Et moi je suis content que on en parle aujourd'hui, parce que après le match qu'il a fait dimanche, et surtout après les années et les saisons qu'il vient de disputer avec l'Inter, il mérite largement un hommage, entre guillemets, un hommage des observateurs. Mais c'est un, comme tu dis, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues. C'est un gardien, assez lisse, assez calme, policé. C'est vrai qu'il n'y a jamais une déclaration plus haute que l'autre. Il est très, il est très, très calme. Mais dans le jeu, dans sa position, dans les arrêts qu'il fait sur sa ligne, il est impressionnant.
Moi, je trouve que c'est le meilleur gardien de Serie A sur les 10 dernières années sur sa ligne.
Évidemment. Alors, certes, il y a quelques problèmes parfois dans les sorties.
Oui.
Mais sur sa ligne, c'est hallucinant. Il est dimanche contre l'Atalanta, il a fait des arrêts. Mais alors, si vous ne les avez pas vus, je conseille aux auditeurs d'aller les voir, parce que c'est vrai qu'il y en a 2-3, même sur le Papou, sur Ilicic, qui sont assez impressionnantes. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un joueur qui est essentiel pour l'Inter. Et moi, le poste de gardien est très important, évidemment, surtout en Italie. Et moi, je considère que les gardiens qui te font gagner des points. Et c'est le cas d'Andanovic, parce qu'il fait gagner des points, parce que, certes, il n'a pas pu éviter la défaite de l'Inter, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute des 10 autres qui n'étaient pas en grande, grande forme. Mais, et t'as les gardiens qui t'en font perdre. Et par exemple, depuis quelques temps.
Je sais de qui tu as parlé, je le sens venir.
Si tu vas de l'autre côté de Milan, c'est mon avis, je sais pas si, j'invite les auditeurs à réagir, à mentionner sur Twitter. Et pour moi, Donnarumma, depuis quelques mois, fait perdre des points à Milan. Et c'est la différence entre un gardien évidemment confirmé, plus avancé dans l'âge, comme Handanovic, qui te sauve l'Inter à plusieurs reprises. Donnarumma l'a fait pendant au début de sa carrière à Milan. La première année était monstrueuse. La deuxième aussi était bien. Et depuis quelques mois, c'est quand même compliqué. Dans le derby, on se rappelle sa sortie qui est pas bonne sur le but d'Icardi. Dimanche contre la Juve, je te promets, j'étais au stade, j'étais juste derrière lui. Il fait exactement la même sortie que dans le derby. Il fait deux pas en avant et tout de suite après marche arrière. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Icardi te marque le but et Mandzukic le marque aussi. Quand Danovic, c'est vrai, dans la sortie, on sait que c'est pas son point fort. Mais depuis quelques matchs, c'est vrai que Donnarumma, il ne fait plus ces miracles que te fait encore Handanovic.
Ouais.
Parce que dimanche, je pense vraiment que tu seras d'accord qu'on peut parler de miracles. Il y a vraiment des arrêts qui sont monstrueux. Et malheureusement, c'est la différence. C'est deux constats. Donnarumma, à l'heure actuelle, te fait perdre des points parce qu'il est plus, il te sort plus les miracles qu'il savait parfois de sortir, comme sur Milik l'année dernière, par exemple. Et Handanovic, c'est un gardien qui te fait gagner des points parce que c'est un gardien qui sait te sauver quand il faut. C'est un gardien qui, qui fait des arrêts quand tu t'y attends pas, c'est celui qui te, voilà, qui peut te tenir un score, et tu sais que tu peux avoir confiance en lui. Je pense que ses coéquipiers sont très rassurés quand il est dans les buts, évidemment. Et ça fait quand même un bout de temps qu'il est à l'Inter. Donc, c'est aussi un pilier du club, silencieux, certes. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, même dans les zones d'interview, dans les après-matchs, on n'a pas beaucoup de ses déclarations. Mais je pense que Jean Le Bessier est quand même très important. Et ça reste, comme tu dis, pour moi, c'est... dans un classement de gardien dans Serie A, on le mettrait dans quelle position? Si tu fais un top
de
3
la saison actuelle?
Ouais, de la saison actuelle.
Ah, pour moi, il est...
Ouais, numéro 1.
Numéro 1 ou numéro 2, parce que... Il y a Zepé de Parme
ouais,
qui fait des
Chesney est pas mal
de miracles. Chesney est pas mal. Mais...
Moi, Chesney, alors, si on fait un thème gardien très rapidement, c'est vrai que quand tu parles à plusieurs personnes qui suivent pas la Serie A, elles sont restées sur le Chesney d'Arsenal.
Oui.
Et voilà, ils te disent oui, bon, Chesney, c'est pas un bon gardien, il était pas bon. Alors que moi, moi, et ceux qui suivent la Serie A le savent, il a quand même fait d'énormes progrès depuis qu'il est à la Juve.
Ouais.
Il a mis son temps aussi parce qu'il y avait Buffon qui était là, il était forcément intouchable. Il a pris son temps, il était sur le banc, il a attendu patiemment. Et à chaque fois que il était employé, même à l'époque Buffon, hein, quand voilà le nombre de matchs qu'il avait, quand la dernière année de Buffon, je crois que Chesney a dû en faire une vingtaine de matchs, il avait toujours été bon. Et c'est vrai que c'est aussi un très bon gardien, donc faut pas rester sur les années d'Arsenal qui voilà qui ont évidemment ont pas été très bonnes. Mais à la Juve aussi là, il est vraiment en grande forme et dimanche il l'a encore prouvé. Donc c'est vrai qu'on a mais pour revenir à Andanovic, c'est vrai que sur la saison actuelle
Il est top 3 sans problème. Après, on doit décider si on le met numéro 1 ou numéro 2, quoi. En gros,
Mais sur les dernières années, il y a quand même impressionnant régularité, ouais. Andanovic. Au-delà de ça, alors certes, voilà, j'ai en souvenir son erreur face à Torino,
cette
saison où il sort
un peu bizarre.
Voilà, il sort sur Belotti, c'est vrai qu'elle est bizarre. Forcément, ça fait toujours des réseaux sociaux. C'est toujours plus simple de souligner les erreurs que les miracles. Mais moi, tu es d'accord aussi. C'est vrai qu'Andanovic est l'un des meilleurs gardiens de Serie A. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Donc, c'est vrai que je suis content qu'on fasse un point sur lui parce que dimanche, j'ai encore prouvé que c'était un élément essentiel du 11 de Spalletti.
Et puis, quand même, disons-le pour conclure ce débat, ça reste quand même l'un des rares gardiens à mettre une casquette quand il y a du soleil.
Et évidemment.
Ça nous rappelle quand même les plus grandes heures de la Serie A et ça nous fait évidemment
chaud au cœur.
C'est vrai
qu'à chaque fois qu'il y a du soleil, il te sort la casquette. À chaque fois.
Je pense que c'est un gardien qui serait capable de mettre un pantalon type pyjama gris et sa casquette les jours d'hiver où le soleil est rasant et où le terrain est un peu trempé. Je pense qu'il serait tout à fait capable d'avoir une telle tenue des années 80.
C'est un gardien comme on aime.
Exactement. On va passer, Guillaume, à la Nationale. C'est quoi ce ouais tout désabusé?
J'étais bien avec ma Serie A. J'ai toujours du mal avec les trêves, moi. J'ai l'impression que ça en fait. On a la 10e depuis le début de saison. C'est assez insupportable.
C'est vrai que c'est assez insupportable. Le début de saison est tronqué tous les mois, en fait, en septembre, en octobre et en novembre, voilà, par une semaine internationale qui est des plus ennuyeuses. On va pas se mentir. Et on a tous hâte que la Serie A revienne.
Ouais.
Après, ça nous fait du bien au cœur, hein, puisque pendant 15 jours au moins, enfin quasiment 15 jours, on n'a pas de risque d'infarctus lié à des performances de nos clubs chéris. Mais pour revenir à la Nationale, donc les deux matchs, Italie-Portugal, samedi 17 novembre à Milan, dans le cadre de la National League, et Italie-États-Unis, Kamoulox à Genk en Belgique, mardi 20 novembre.
À Genk, oui.
À Genk, exactement.
On fera pas le déplacement, comme on dit.
Non, bien sûr que non. alors, dans la liste des joueurs retenus, ce qu'il faut noter, c'est que, moi, déjà, un truc qui m'a marqué, c'est que Mathia Perrin a disparu. Et ça, il paye sa stratégie.
Évidemment.
D'être remplaçant à la Juve, plutôt que d'être titulaire dans un autre club en Serie A. Résultat, c'est Cragno de Cagliari qui a été appelé.
Est-ce que c'est pas prévisible?
Que Perrin ne soit pas appelé?
Ouais.
Bah, si.
Évidemment, on le savait.
Mais c'est décevant qu'un gardien qui était dans les tout meilleurs de Serie A ait fait ce choix-là. On va pas
revenir. Et surtout que, tu vois, la différence de Chesney, tu te rappelles, qui a attendu pour Buffon, comme on l'a dit tout à l'heure, il a attendu que Buffon s'en aille ou prenne sa retraite comme c'était prévu. Il a attendu, voilà, une année un peu plus. Perrin, on sait très bien que, enfin, Chesney, il va pas partir maintenant.
Non, puis ouais. Le truc, c'est que Chesney, il a joué quand même, ce que tu disais tout à l'heure, il a fait une vingtaine de matchs.
Oui, exactement. Oui.
Alors que Perrin ne joue jamais.
Non, mais c'est vrai, mais voilà, de surcroît, on sait très bien que si ça continue comme ça, Chesney sera inamovible dans les buts de la Juve. Donc ouais. C'est vrai que on l'avait dit l'été dernier, il n'y avait pas que nous, il y a beaucoup de gens qui avaient dit que c'était un choix bizarre. Et c'est vrai que bah évidemment, il paye son choix de partir à la Juve et de ne pas jouer. Et résultat, bah, il n'est pas convoqué au national. Et c'est dommage parce qu'il était bien revenu après beaucoup de blessures assez graves. Et voilà, c'est vrai que ça le stoppe un peu dans son retour. Donc c'est dommage pour lui.
Alors, dans le reste des convoqués, pas trop de surprises en défense. On note quand même le retour de Chilio de la Juve. Bon.
On recherche latéraux.
Voilà, c'est un peu ça qu'on en essaye toujours beaucoup. On en fait revenir d'autres, mais.
Lazzari qui manque. Voilà.
Ouais, mais bon, à partir du moment où tu prends De Chilio et que t'as Florenzi, c'est compliqué de prendre aussi.
Ouais, mais pour moi, je vais te dire que Lazzari est meilleur que De Chilio. Ah, voilà.
C'est un point de vue qui se défend largement.
Et bah.
Alors, au milieu de terrain, là, il y a plus de surprises quand même, oui. Puisqu'il y a deux nouveaux qui apparaissent dans cette.
Est-ce que, alors moi, j'ai vu qu'il y avait un milieu de terrain aux cheveux longs.
Oui.
Alors, est-ce que c'est le retour de Pirlo ou pas? Non.
Alors, figure-toi que c'est son jeune frère qui joue à Brescia et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandro Tonali, qui avait fait un très bon Euro U19 l'été dernier, c'était en Finlande, et qui là, après un gros début de saison avec Brescia, encore une fois, hein, il est vraiment bon, décisif. Patron sur le terrain à 18 ans en série B.
On avait parlé, hein, tu te rappelles,
dans les joueurs à suivre cette saison.
Exactement.
Et il est donc appelé. Et l'autre joueur, c'est Stefano Sensi. Et ça tombe bien, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Du Sassuolo. Qui est un tout petit gabarit lui aussi.
Très technique.
Très technique, qui alors par contre dans les duels il vole en éclat comme pas possible. C'est un peu vraiment sa limite.
Sa limite. Ouais.
Mais je suis en train de vérifier en même temps. Tu vois, 1m68, le petit Stefano Sensi. Mais par contre, énorme activité. Il va très bien d'ailleurs dans le Sassuolo de Zerbi. C'est pas facile à dire, le Sassuolo de Zerbi.
C'est
mais voilà, c'est une récompense de son bon travail. Alors, très honnêtement, je pense pas qu'il ait le niveau international. Mais aujourd'hui, on a fait appel à lui et évidemment, il arrive derrière tous les autres. Hein. On va pas se le cacher entre Barella, Verratti, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini. Bon, il est numéro 6 dans la hiérarchie, mais ça doit aussi l'encourager à continuer à bosser et ça dépendra aussi de la suite de sa carrière puisque s'il choisit un bon club derrière sa solo, il a 23 ans hein, donc il a encore un peu le temps. Surtout c'est un profil un peu particulier qui peut jouer aussi sur les côtés. Je crois qu'il a joué déjà milieu gauche avec sa solo cette saison.
Ouais.
Donc voilà, c'est un joueur hyper intéressant. Si vous le connaissez pas, allez le voir. Allez voir des extraits de lui sur YouTube, etc.
Et comme Tonali, hein, Tonali sur Twitter, j'ai vu qu'il y a plusieurs vidéos qui tournent.
Bien sûr.
Sur des compilations de ses plus belles passes ou de ses buts. Donc, pour ceux qui connaissent pas Tonali, et je pense qu'on a beaucoup parce que c'est sûr que c'est pas une star mais c'est vraiment un joueur en devenir. Il est très intéressant à suivre et vu les prix qui sont annoncés, je pense que il va partir assez vite.
Et ils vont reconnaître les passes lobées et
exactement.
Et les changements d'ailes de l'intérieur du pied avec une trajectoire en courbe qui monte très haut et qui redescend pile dans les pieds d'un certain Andrea Pirlo.
Au-delà du physique, voilà. On rappelle, je l'avais déjà souligné, mais c'est quand même le petit frère jumeau d'Andrea Pirlo aux cheveux longs. Brescia, enfin c'est incroyable les similitudes qu'il y a entre Andrea Pirlo et Tonali, donc on lui souhaite la même carrière.
Et reste à savoir si le changement physique ou la ressemblance physique se poursuivra
avec la barbe
dans ses 30 ans. on aura l'occasion de le voir. Déjà, si
est-ce
arrive...
que cette barbe te plaisait,
c'est un vrai débat. Une des plus belles barbes d'Italie. On va pas se mentir, une des plus belles barbes d'Italie.
Ah, tu aimais cette barbe, même, parce que moi, je sais que ma famille était contre cette barbe.
Eh ben, écoute, il y a deux Italiens qui portent très bien cette barbe. Il y a Daniele De Rossi et Andrea Pirlo, qui sont un peu les maîtres esthètes de la barbe made in Italy.
C'était la barbe à la Juve, hein, parce que Milan ne l'avait pas.
Oui,
c'est la barbe turinoise.
Exactement, la barbe de la maturité, peut-on dire.
Magnifique point barbe, on peut continuer
la liste. Bien sûr. Et donc, en attaque, pour revenir à notre liste, nous avons donc deux absents, comme la dernière fois, Belotti et Balotelli. Ouais. On a le sentiment que pour Balotelli, le train est en train de passer à grande vitesse.
Ouais, il passe un peu partout le train pour Balotelli.
C'est ça.
Même à Nice, j'ai l'impression que...
Oui, c'est compliqué.
Il n'a pas pris non plus le train. De toute façon, voilà, tu te rappelles que Mancini l'avait convoqué au tout début de la saison. Il n'était pas en forme, on l'avait vu.
Ah oui, on l'avait vu, oui. C'est moins compliqué.
Et je pense qu'à Nice aussi, ils l'ont vu. Donc, Balotelli, on lui a redonné une chance. Mancini, il va redonner. Et honnêtement, est-ce que tu t'imagines Mancini le reprendre dans les prochains mois?
Ça dépendra de ce qu'il est capable de faire, parce que on va en parler là, mais personne ne semble indispensable aujourd'hui
évidemment,
à la pointe de l'attaque.
Je ne dis pas qu'il est banni et qu'il ne reviendra plus, mais s'il continue comme ça, parce que voilà, Nice, ça ne va pas non plus. Il a l'air très nerveux, il ne marque pas, il n'a toujours pas marqué le début de la saison. Donc évidemment que la porte n'est pas fermée, ce n'est pas la question, parce que voilà, comme tu dis, on est en reconstruction, donc honnêtement, voilà, tout le monde a sa chance. Mais c'est vrai que s'il continue comme ça, s'il inverse pas la donne, à mon avis, le train va sérieusement passer et il reviendra plus à la gare. Hein. Donc, je conseille à Balotelli de se réveiller un peu, de se calmer,
de travailler
surtout, et surtout d'enlever cette crête qui n'est plus possible.
C'est ça.
Ça là, contrairement
ça
à la barbe
plus compliqué.
Je sais pas qu'est-ce qui est le plus compliqué, mais c'est vrai qu'il faut à tout prix qu'il se réveille parce que il est encore en train de tout gâcher, donc c'est bien dommage. Et pour Belotti, je l'ai écouté après le match du Torino, le journaliste de Sky lui a posé la question. Il était assez déçu, il l'a un peu caché forcément par sa langue de bois, mais par la langue de bois des joueurs en général. Il a dit qu'il allait continuer à travailler, que Mancini faisait ses choix, qu'il respectait.
Et voilà, c'est un peu court. Il est en train de revenir, mais c'est un peu court pour le rappeler seulement après deux bonnes prestations ou une et demie.
Un doublé à la Samp. Ouais.
Voilà, c'est un peu trop juste. Bon, après, en même temps, je dis ça et Kevin Lasagna, deux buts en Serie A est appelé. Hein, donc bon, c'est tout est relatif.
C'est un peu de chouchou.
Voilà, mais surtout que tu vois, c'est pour ça que je pense que Balotelli, s'il se remet dans le droit chemin. Et qui commence à enchaîner les buts, c'est que t'as quand même encore dans cette sélection Pavoletti et Lasagna. Bon, c'est...
Pavoletti et Marc à Cagliari. Hein,
oui.
Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais écoute, de toute façon, je pense que Mancini fait une revue d'effectifs de toute l'Italie. Donc, partant de ce principe-là, il convoque un peu tout le monde. Mais évidemment que, tu vois, j'ai l'impression que c'était one shot. Je vois pas mon avenir et l'avenir de l'Italie avec Lasagna, Pavoletti. Même si j'adore Pavoletti, je pense à un joueur, le classique attaquant italien de la tête qui marque sur les centres.
Ouais.
On sait que c'est un bon joueur de Serie A. Après, est-ce que l'Italie doit compter sur Pavoletti, Lasagna pour l'avenir? Je ne pense pas.
Non.
Sur l'instant T, pourquoi pas? Mais c'est évidemment pas en prospective du futur. Donc.
Et puis il y a aussi quand même Vincenzo Grifo.
Oui, c'est vrai. Oui.
De Fenheim. Ouais. Alors, je suis en train de vérifier en même temps, mais je vous conseille de lire, c'est bien là que je l'ai lu, un article de L'Ultimo Uomo, dont je crois que j'ai déjà parlé dans un podcast précédent, qui est vraiment un site de référence pour les fans de Serie A. Alors, c'est en italien, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui le comprennent et peuvent le lire. Il y a un article qui a été publié, c'était hier, et en gros c'est ce qui a amené Mancini à convoquer Vincenzo Grifo en Nazionale, et qui explique son parcours, ses qualités, qui il est, etc., etc. Donc c'est très intéressant avec des vidéos dedans, des propos de Nagelsmann, etc., etc. Donc vraiment un papier à lire. Faut un peu de temps parce que le papier est très long. Mais
c'est quand même la grosse surprise de cette liste. Hein. C'est vrai qu'en Italie, il était pas très connu. C'est vrai que quand je l'ai vu, quand la liste est sortie, c'est vrai que ils ont vite sorti des graphiques de sa carrière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Donc c'est vrai que c'était une surprise pour tout le monde. Donc écoute, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est quand même la grosse surprise de cette liste de Mancini avec Tonali, même si Tonali, on savait que
ça finirait par arriver, mais c'est vrai que c'est tôt.
C'est dans l'air. C'est très rapide, en effet. Mais c'est vrai que c'est intéressant.
Et d'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit comparatif tout à fait personnel de Tonali et Verratti au même âge en série B. Tonali est vraiment en avance sur à peu près tous les critères. Les critères de nombre de matchs joués, minutes disputées, les buts marqués.
D'ailleurs, Verratti était en conférence de presse aujourd'hui et il a dit qu'il se revoyait en Tonali.
D'accord. Bon, écoute.
Pourquoi pas,
On ne sait pas sur quel critère. On espère que c'est sur le critère footballistique. Mais
oui.
Mais voilà. Je crois. Et juste un petit point, puisqu'on se plaint assez souvent du réservoir de cette nationalité, quand même des joueurs qui ne sont pas convoqués pour raisons diverses, hein, choix, blessures, etc. Donc on a quand même Mattia Perin par exemple, on a Mattia Caldara en défense,
blessé.
Bon, je passe tous les vieux de la vieille type Darmian, Ogbonna, etc. Pour moi, qui représente quand même beaucoup plus le passé. Même si on a un joueur comme D'Ambrosio, moi que je trouve quand même assez régulier, pas exceptionnel, mais un joueur de devoir qui reste assez intéressant. Au milieu de terrain, on a quand même des joueurs comme Bonaventura, Cristante.
Blessé, Bonaventura.
Voilà,
ouais.
Cristante, c'est un choix. Marco Parolo, de la Lazio.
Qui marque.
Marco Benassi, de la Fiorentina, qui est un joueur hyper intéressant aussi. Bon, Rolando Mandragora, pour l'instant, j'attends de voir encore. Je suis pas hyper convaincu par ce que je vois depuis le début de la saison. Et puis devant, on a donc Bernardeschi qui a quitté le stage sur blessure, adducteur, je crois. Et puis Patrick Coutronnet aussi en attaque, Bellotti. Il sera intéressant de voir ce que va donner Pietro Pellegrini. Malheureusement, il n'arrive pas à se sortir de ses pépins musculaires d'ailleurs à Monaco. Il sera intéressant de voir ce qu'il donne. Mais voilà, une dizaine de joueurs qui sont proches de la sélection et qui permettent d'avoir un réservoir de 30 joueurs quand même qui sont plus qu'intéressants.
Oui, après voilà.
C'est pour le côté positif, essayer de remonter le moral, surtout ton moral personnel.
Oui, non,
essayer
mais
de
après,
donner
voilà,
un peu de positif. voilà.
Je cache pas que c'est vrai que j'en ai un peu marre des trêves, je pense que tout le monde l'a compris. Mais voilà, au-delà de ça, je vais quand même regarder les matchs, hein, par conscience professionnelle et par amour aussi de la nationale et que j'essaie de retrouver. On rappelle qu'on enregistre le lundi 13 novembre, il y a un an tout pile. On se faisait.
Alors, nous
salement.
Sommes pas lundi, nous sommes mardi. Mais
nous sommes mardi.
Tu es bon sur la date.
Voilà, le 13 novembre 2017, on se faisait salement éliminer par la Suède des éliminatoires de la Coupe du Monde, enfin du barrage de la Coupe du Monde. Donc, c'était un an tout pile. Donc, un an plus tard, où sommes-nous?
Je
pose la question.
Écoute, tu me donnes l'occasion de faire une transition absolument magnifique, puisqu'à la tête de cette équipe, nous avions un certain Ventura qui a refait parler de lui récemment, et notamment cette semaine, puisqu'il a déjà quitté son poste d'entraîneur du Kivu après seulement 4 matchs disputés. On parle un peu de son bilan, 3 défaites, 1 match nul, 11 buts encaissés, 2 buts encaissés au minimum sur chacun des 4 matchs qu'il a coaché, qu'il a dirigé. Et surtout, moi c'est la stat que je préfère, honnêtement, c'est une stat absolument magnifique. Lors de 2 de ces 4 matchs, le Kievo n'a pas tiré une seule fois lors de la première mi-temps.
Et ça, tu peux rajouter à tes stats le fait qu'il s'est fait attaquer via Instagram par... démonter par Sergio Pellissier, qui est quand même le cadre du Kievo depuis bien des années,
oui.
Qui est quand même un joueur très exemplaire.
La bandière.
Donc, c'est quelqu'un qui est très apprécié en Italie, c'est vraiment un très bon joueur, une très belle personne. Et c'est vrai qu'il s'est un peu lâché sur Ventura dans un grand post sur Instagram où il dit que avant d'arriver, il était déjà parti, qu'il fallait pas faire comme lui, abandonner le navire. ah, c'est des attaques quand même assez comment dire, assez sévères ou plutôt.
Bah, voilà, c'est très fort hein, comme propos très et fort, surtout.
Voilà, assez fort. Voilà.
Se pose du coup la question de quel rebond pour Ventura, parce que quand tu restes déjà sur une élimination, enfin une non-participation à la Coupe du Monde pour un pays comme l'Italie, c'est très compliqué à gérer. Et là, son voilà, il avait une sorte de pas de deuxième chance, mais essayer de rebondir au moins. Oui.
Quand tu ne parviens pas à qualifier un pays comme l'Italie à la Coupe du Monde dans un pays de football comme l'Italie, déjà ton histoire elle est quasiment finie avec ce pays entre guillemets. Il n'y a pas mort d'homme évidemment, mais sportivement parlant, c'est vrai que c'est un drame. Le fait qu'il soit un club de Serie A, c'est quand même miraculeux.
Ouais.
Et voilà, le bilan comme tu l'as dit, c'est, on se rappelle qu'il a commencé par 5-1, je crois. Face à l'Atalanta, elle est prise 5 à domicile. Alors, ouais, il se murmure au début, c'était une démission. Puis aujourd'hui, dans les journaux, ils disent que c'est plus, voilà, ouais. C'est un départ.
Le communiqué dit, je crois, hein, que c'est un accord à l'amiable, oui. Hein.
Un accord à l'amiable, apparemment, c'est quand même le président qui a plus poussé, pour que, voilà, pour qu'il s'en aille et qu'il trouve un accord. Donc, que dire? Comme dire, voilà, un an plus tard, voilà, on en est là. Donc, c'est pas étonnant, honnêtement. C'était voulu au fiasco parce que moi je sais pas si tu serais du même avis, mais tu vois, je me suis mis à la place des joueurs.
Ouais.
Alors on a tellement parlé de Ventura en Italie, on sait très bien qu'il est il est entraîneur avant la sélection, il a eu des belles années au Torino,
oui.
Peu importe. Mais c'est vrai que maintenant déjà dans l'imaginaire de tout le monde,
c'est un loser.
C'est un loser. T'as raison, il faut le dire, c'est un loser. Mais tu vois, si tu te mets à la place des joueurs, parce que évidemment que les joueurs ils sont humains, c'est pas des robots. Donc imagine demain, tu vas débarquer Ventura à la tête de ton club. Donc ça devient ton entraîneur. Est-ce que vraiment tu crois en lui? Après tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, c'était quand même la personne la plus détestée d'Italie, si ça l'est toujours. Est-ce que si t'es joueur et que tu vois cet entraîneur-là débarquer, après ce qui s'est passé, est-ce que vraiment t'as envie de le suivre et t'as envie de croire en ses méthodes?
Bah. Il n'y aurait pas eu l'épisode du Chievo, j'ai envie de te dire oui, parce que la deuxième chance existe, et comme tu l'avais dit, avant la Nationale, il avait quand même fait des bonnes choses au Torino. Mais là, plus grave pour lui, j'ai envie de dire même presque plus grave que le fait de ne pas qualifier l'Italie, c'est la sortie de Pélissier, où clairement,
oui.
Il te fait comprendre qu'humainement, c'est une catastrophe, parce que depuis le départ, il avait qu'une idée... C'était en gros de partir, toucher ses indemnités et s'en aller quoi. Et ça, je trouve ça assez terrible parce que quand tu vas te retrouver à nouveau face à un groupe, tu peux compter sur la presse pour ressortir les propos de Pélissier. Donc ils vont les lire, ils vont les voir, ou on va leur rapporter s'ils le font pas eux-mêmes. Là, je trouve ça assez compliqué pour gérer un vestiaire parce que eux vont se dire bah peut-être qu'il va nous faire la même chose.
Et surtout, tu te rappelles de la conférence de presse après Italie-Suède, où un journaliste lui demande s'il allait démissionner, ce qui semblait évident pour tout le monde après un tel cataclysme pour un pays de football comme l'Italie. Et il avait dit non, pas maintenant. Donc lui, il voulait pas démissionner. Il a pas démissionné. Alors que honnêtement, après un tel catastrophe, tout le monde, mais vraiment. Tout le monde avait dit bon voilà c'était fini qu'il allait partir et non ça a pris quelques jours tu te rappelles avant qu'il soit débarqué de son poste. Donc c'est vrai que comme tu dis je suis assez d'accord sur le fait que Pélissier est quand même quelqu'un très respecté en Italie, c'est un joueur qui est très aimé par ses pairs, par les journalistes, par les observateurs. On a rarement entendu une critique sur Pélissier, c'est un joueur très expérimenté. Donc c'est vrai que comme tu dis, sa sortie.
Mais il paraît qu'une fois, il est parti, il a volé une clémentine quand il était plus jeune, mais.
Pareil, c'est ce qui se murmure dans
C'est ce qui tourne, hein, mais moi.
Dans les travées du Bentego di Verone. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la nationale, plus le Chievo, plus les propos de Pélissier, moi, je suis curieux de voir quel club redonnera une chance à Ventura, et je pense qu'honnêtement, je sais pas si on le reverra parce que, il va devenir vraiment blacklisté parce que ça commence à faire beaucoup. Et donc je sais pas si on le reverra un jour sur un banc de Serie A.
Alors dans notre pêle-mêle footballistique de la fin, le Dolce, on a noté aussi la prestation de Gianluca Mancini. le défenseur de l'Atalanta dont j'avais brièvement parlé déjà la semaine dernière.
Il a encore marqué.
Encore marqué contre l'Inter. 3 buts en 8 matchs, quand même pas mal pour un défenseur central. Alors dans le même temps, il a provoqué le penalty de marqué par Icardi. En gros, c'est une main après la boulette de Berisha sur une relance où il se trouve de manière assez scandaleuse. Est-ce qu'on peut, alors je le vois un peu sur les traces de Caldara, dans le sens où même club, même type d'attaquant, très physique, très costaud, même facteur décisif sur les coups de pied arrêtés de l'Atalanta. Est-ce qu'on peut imaginer le voir par exemple en Nationale assez rapidement, parce que au final, derrière Bonucci, Chiellini et Romagnoli, le poste numéro 4 échoue aujourd'hui à Rugani, qui joue peu, voire très peu. Voilà, exactement. Et donc derrière, les portes sont un peu ouvertes, parce qu'en gros, voilà, Acerbi, bon, alterne le bon et le moins bon à la Lazio, et puis surtout, il représente pas l'avenir. Il va sur ses 31 ans. Tonelli, de la Samp, ça reste un défenseur,
normal,
voilà. Et donc derrière, il y a quand même une place à prendre.
Évidemment qu'il a, il y a une place, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Italie est en reconstruction, le chantier est ouvert, tout le monde a sa chance, donc évidemment qu'il a une possibilité d'y aller. S'il continue comme ça, comme tu l'as dit, à 3 buts, c'est quand même quelque chose. Il a quand même une sacrée détente, une sacrée force, une sacrée puissance dans les buts qu'il met. Donc évidemment qu'une possibilité pour l'Italie. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que voilà, ça ressemble beaucoup à Caldara, la trajectoire, le fait qu'Alex soit à l'Atalanta, son poste, le fait qu'il soit entraîné par Gasperini. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc oui, évidemment que ça peut être une possibilité pour Mancini et la Nationale.
Alors, autre sujet, la Fiorentina. 5 matchs sans gagner. 4e match nul, un partout consécutif. Et surtout une attaque en berne. Alors, je sais pas si tu te souviens, on va faire appel à ta mémoire et à la mémoire de nos auditeurs. J'avais regardé le premier match de la Fiorentina, en tout début de saison, donc lors de la première journée. Une victoire 5-1, alors je crois que c'était contre le Chievo. 5-1 ou 6-1, je sais même plus d'ailleurs. Contre le Chievo Vérone. Et je t'avais dit, le score est assez trompeur, puisqu'ils avaient eu 100% de réussite en gros. On avait même une frappe de Milenkovic en pleine lucarne. Enfin voilà, on avait un peu tout eu. Et bah depuis, Chiesa n'est qu'à 2 buts cette saison. Simeone n'est qu'à 2 buts cette saison. Esric à 0. Piaka à 1 but. Ils ont un des pires ratios de Serie A de buts marqués par rapport aux tirs cadrés.
Ouais.
Donc de gros problèmes dans la finition et surtout des jeunes joueurs qui n'arrivent pas pour le moment à relever la tête dans un moment un peu compliqué, parce que faire match nul contre la Roma, bon, oui, d'accord, mais faire match nul contre Frosinone et ce genre d'équipe, c'est plus compliqué.
Mais c'est comme tu dis, le ratio des buts tiers, c'est ce que soulignait Pioli dans la conférence d'après-match que j'ai regardé. Et c'est vrai qu'il disait, ben voilà, on a manqué de réalisme, on tue pas le match, ça nous arrive trop souvent. Et malheureusement, on le paye. Et c'est vrai que ça fait 5 matchs qu'ils gagnent pas. Ils sont ralentis, pendant que les autres aussi gagnent. Alors voilà, ils ont la chance que Milan ait perdu. Bon, la Roma a gagné. Mais c'est vrai que le Torino a perdu aussi dans la lutte pour l'Europa League. Donc ils ont aussi cette chance que ça avance pas beaucoup si on est chez les concurrents directs. Puis c'est vrai que ça fait 5 matchs qu'ils gagnent pas. Et quand tu gagnes pas à Frosinone, alors que tu ouvres la marque, t'as plusieurs occasions pour mettre le deuxième, voilà, tu manques de réalisme. Et c'est ce que Pioli a souligné dans l'après-match. Il était pas content du fait que ses joueurs parviennent pas à tuer le match. Et c'est vrai que y a beaucoup de joueurs qui, comme tu le disais, c'est un but par-ci, un but par-là. Et c'est vrai que t'as pas ce joueur, tu vois, qui passe les 5, 6, 7 buts. Et c'est vrai que Simeone, alors t'as le nombre de buts de Simeone sous la main, ou tu veux que je meuble?
Non, il a marqué 2 buts cette saison.
2 buts, voilà. Donc tu vois, c'est trop peu, parce que c'est ton buteur. Et c'est vrai que t'attends plus de Simeone. Et donc si t'as pas ce buteur qui est prêt à te tuer le match dans un moment où tu gagnes quand même 1-0 à Frosinone, et normalement tu dois conserver le score, et ils prennent une superbe frappe de Pinamonti. Donc c'est vrai que la Fiorentina est en crise. Est-ce qu'on peut dire une crise? Non,
parce qu'on n'attend pas non plus d'elle qu'elle lutte pour le titre.
Pour le titre, non, mais c'est vrai que bon, pour la lutte pour l'Europe, peut-être pas la Ligue des Champions, parce que moi je pense que voilà, j'ai déjà dit, il y a la Juve.
C'est trop juste.
Voilà, la Juve, tout le monde. Ensuite, tu auras l'Inter Naples. Et après, tu auras peut-être les deux clubs de Rome et Milan. Et en dessous, tu auras peut-être voilà, Torino, Fiorentina, Samp, Sassuolo. C'est vrai que voilà, c'est une mauvaise spirale. Et, Pioli n'était pas du tout content dans l'après-match. Donc, on suivra ça dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est vrai que si les 5 matchs ne gagnent pas, ça commence à faire beaucoup.
Et si on prend les meilleurs buteurs de l'équipe, c'est quand même Benassi avec 5 réalisations et Veretout avec 3 buts aussi, dont plusieurs pénaltys. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas 3 pénaltys qu'il inscrit Veretout.
Contre la Roma, c'est lui qui marque. C'est
un pénalty contre la Roma, du coup.
Ouais, c'est un pénalty, ouais. Donc,
Et ensuite, on a Milenkovic, défenseur, avec 2 buts au même niveau que Simone et Chiesa.
Est-ce qu'il te reste du temps dans le Dolce? Est-ce qu'on a encore le temps?
Oui, on a encore le temps, bien sûr.
Voilà, moi j'ai envie de dénoncer. Enfin, dénoncer.
Oulala.
J'ai envie de dénoncer.
Oulala.
Non, je veux pas dénoncer, mais on en parle tout le temps en off. Moi, j'en ai marre, et je veux le dire. J'en ai marre des vieux entraîneurs. Qu'à chaque fois, on recycle, et on recycle encore. On peut le dire qu'on en parle souvent en off. Et la semaine dernière, tu nous avais quand même annoncé Yakini, tu te rappelles?
Oui, de manière totalement spontanée et innocente, exactement.
Et c'est vrai que, ça s'est avéré.
Il est arrivé à Empoli.
Oui, il est arrivé à Empoli, oui, évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, on retrouve Yakin avec sa casquette. Voilà, là, il y a Nicole qui va être normalement nommé à l'Udinese. Voilà, donc il y a aussi Nicole qui va revenir. C'est toujours les mêmes. Avant, on avait Cosme, on avait plein d'autres. C'était toujours pareil. Et ça continue. On recycle l'entraîneur. Et là, comme tu dis, tu avais raison la semaine dernière quand tu disais, c'est toujours sur l'instant T. C'est pour une période déterminée. C'est très bien que c'est la mission commando jusqu'au maintien. Et après, t'as pas de perspective.
Non.
Donc, une fois que Yakini sera viré, on reprendra Andrea Zoli. Et puis après, ce sera Ballardini. et ça recommencera encore. Et moi, j'aimerais bien un vent de fraîcheur, des nouvelles idées.
Alors, le vent de fraîcheur peut venir de Domenico Di Carlo. Non, je plaisante, bien sûr. qui va arriver au Chievo.
Voilà, mais t'as raison de le dire, Di Carlo. Là. Et c'est toujours la même rengaine. Dès qu'il y a un coach viré, on retrouve les mêmes. Le plus drôle, à présent de Parigny, je pense que c'est après Zampalini de Palerme, je pense que c'est Preziosi
du
Genoa qui te vire Ballardini après un bon début de saison.
Pour mettre Juric.
Avec Piontek qui marque but sur but. Et depuis que Juric est revenu, ils ont perdu tous leurs matchs. Alors face à l'adversaire compliqué, c'est vrai. Et Piontek a pu mis un but.
Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais je crois que j'ai vu ça chez Dimar, tu vois. Juric encore sur la sellette.
Oui, et du coup, Preziosi, il a confirmé. Il a dit oui, il va rester. Mais voilà, ça c'est bon. En Ligue 1 aussi, c'est vrai qu'on a souvent aussi les mêmes têtes qui reviennent, même si il y a un petit vent de fraîcheur aussi. Voilà, moi j'aimerais bien avoir plus, tu vois, d'entraîneurs comme De Zerbi, comme des plus jeunes. Alors j'ai rien contre les entraîneurs. Hein,
mais après, t'as des plus jeunes qui n'ont pas forcément.
Évidemment.
Percé, on pense à Stramaccioni,
oui,
par exemple.
Évidemment,
Et puis moi, je pense à un autre dont on disait beaucoup de bien à l'époque. Comme Stramaccioni, il est passé à la Primavera de l'Inter. Je sais pas si tu t'en souviens. Je vais faire appel à ta mémoire. Il est chauve. il a une petite barbe. C'est Fulvio Pea.
Je ne me souviens pas.
Tu te souviens pas?
Non.
Mais il est voilà, parcours pareil, Primavera de l'Inter, il fait du très bon boulot et puis là il avait eu les rênes de Sassuolo, c'était pas forcément hyper bien passé et donc depuis c'est Padova, la Juve Stabia, Monza, Cremonese, Pro Piacenza. C'est un peu la descente aux enfers.
Je dis pas que les jeunes entraîneurs ont raison de tout et sont le futur du football, c'est pas la question, mais c'est vrai, j'en ai un peu marre de ce recyclage permanent d'entraîneurs qui voyagent au club de Serie A pour les sauver d'une telle situation et puis après ils se font revirer, ils se font reprendre. Et voilà, l'exemple le plus parfait, c'est Ballardini à Gênes qui a été viré, repris. Et c'est ça tout le temps. Et
c'est le Guidolin moderne.
Exactement, il y a Guidolin et puis Il y en a plein d'autres. Alors là, je les ai pas tous en tête, mais.
Mais je vais te citer un autre entraîneur dont certaines anciennes gloires disaient beaucoup de bien. Notamment, ça je l'ai en tête, j'ai pas réussi à le retrouver, mais c'est parce que ça date un peu. Un certain Arrigo Sacchi avait dit du bien de Giuseppe Sanino, qui entraînait Sienne à l'époque.
Un chauve aussi.
Et un chauve aussi, exactement, qui faisait beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, les chauves arbitrent en France et sont entraîneurs en Serie A. Et donc, il était passé à Palerme. Bon, erreur fatale, hein, on va pas se mentir. Donc, Palerme, il avait été rapidement viré, puis rappelé. Ensuite, il est allé au Chievo, tiens, comme par hasard. Ensuite, à Watford, donc dans la galaxie des Pozzo. Alors, depuis, c'est Catania, Carpi, Salernitana, la Triestina, et maintenant à Levadiakos, en Grèce.
Ah oui. Mais oui, je m'en rappelle de. C'est Giuseppe, son prénom.
Ouais, exactement.
Giuseppe Sanino. Oui, je m'en rappelle, mais voilà. Après, tu te rappelles, t'as eu Cosmi aussi, un peu plus.
Cersei Cosmi, rappelons-le, lors d'un Lazio Perugia, avait été expulsé par l'arbitre et avait littéralement, pour dire de façon vulgaire et familière, beuglé Forza Roma en quittant la piste d'athlétisme et en rejoignant les vestiaires. C'est un personnage tout à fait
exactement
intéressant.
Exactement. Mais voilà, c'est mon petit coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule salvateur
que je voulais placer dans le Dolce qui est un peu amer. Et que je tenais à livrer aux auditeurs et à toi, avec le plaisir qui s'ensuit.
Bien sûr, ça nous a permis de revivre de vieux exactement. Souvenirs.
Ça nous rajeunit pas.
Exactement. Mais écoute, c'est sur ces belles paroles et cette phrase hautement philosophique que nous allons nous quitter. On se retrouve donc la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on aura un invité qui parle beaucoup de jeux et de tactique et on fera
un
premier bilan avec lui de la Serie A parce qu'on est au tiers du championnat à peu près, à peu de choses près. Et donc il y a déjà quand même pas mal de choses à voir et à regarder. On évoquera les joueurs qui l'ont marqué, les entraîneurs qui l'ont marqué, des systèmes de jeu qu'il a pu voir. Des matchs en particulier, voilà, il y a pas mal de choses qu'on va évoquer avec lui, donc on aura un vrai focus sur le jeu et sur la tactique. On essaie de parler évidemment à chaque fois le plus de jeu plutôt que de s'intéresser à des choses totalement inintéressantes, mais on accentuera encore un peu plus le propos la semaine prochaine avec Christophe Kuchli qui participe notamment à l'excellent podcast Vue du banc, qui est un podcast qui parle justement de jeu et de tactique sur les 4 grands championnats européens et la France, parce qu'on va éviter de dire les 5 grands championnats européens, et qui revient sur pas mal de choses et sur.
Ce scud.
Non, ce n'est pas un scud, c'est tout à fait normal et voilà, c'est même pas un scud, hein, c'est simple lecture des résultats.
Exactement.
En Coupe d'Europe et d'autres choses et d'autres paramètres qu'on peut prendre en compte dans ce classement-là. On se dit donc à la semaine prochaine avec Christophe et avec toi Guillaume.
Ouais.
D'ici là, bonne semaine internationale. Donc désolé, il faudra faire avec. Essayez quand même de regarder un petit peu l'Italie contre le Portugal. Hein. Ça risque d'être un match assez intéressant ou pénible, selon Guillaume, j'anticipe tes propos.
On verra.
On verra et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut Guillaume et salut à tous.
Salut à tous.
Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.